Well, dear colleagues, thanks for coming.
Chers collègues, merci d'être venus. Merci d'avoir fait part de votre intérêt pour cette présentation. Dominique David de l'IFRI est non seulement un bon ami, c'est également quelqu'un qui regarde toujours avec d'un œil très intéressant les sujets stratégiques. Je suis heureux de l'avoir avec nous cet après-midi, avec Mark Hacker qui vient de publier ce livre. J'ai un exemplaire ici. D'autres viendront. War 2.0. Je pense que ce livre aborde vraiment des questions auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, dans notre travail. On s'attaque à des sujets clés. On parle de la façon dont l'information change la gestion des opérations. Et il y a également question du lien avec le public. Donc je suis sûr que ce livre va nous donner non seulement des idées neuves, mais des idées surprenantes et qui vont vraiment nous faire réfléchir. Et donc c'est pour ça que je pense que cette présentation sera intéressante et importante pour nous. Je laisse la parole à Dominique et Marc. Je les remercie d'être venus. Isabelle va vous parler de la façon dont on pourra vous donner les livres à la fin, peut-être à la fin de la conférence. Enfin, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Mais enfin, Dominique, vous avez la parole. Moi, je dois partir dans quelques instants, mais je vous laisse entre les mains de Dominique et de Marc. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Pou.
Merci infiniment. Merci de ton accueil. Je suis très heureux, mesdames, messieurs, de me retrouver ici avec l'un de nos chercheurs et l'un des chercheurs de l'Institut français des relations internationales et donc l'un de nos auteurs. Je crois que nous nous retrouvons cet après-midi autour d'une problématique qui est à la rencontre de deux glissements. Le premier glissement, c'est un glissement dans l'évolution des conflits. Si je voulais aller vite, je dirais que nous sommes les héritiers de, disons, deux siècles de pensée de glissement vers la guerre totale, de 20 ans entre 1975 et 1995 d'oubli des guerres coloniales ou des guerres de décolonisation ou de refoulement de ces guerres, et puis une dizaine d'années dans les années 90 de fascination technologique, la révolution des affaires militaires où on pensait que les technologies en général, les technologies de l'information en particulier, allaient pouvoir spontanément être mises au service de la puissance militaire classique, si je puis dire. L'autre glissement, c'est évidemment un glissement dans les technologies et les produits de l'information, glissement en termes de moyens, glissement en termes de quantité d'informations, glissement en termes de rythme de diffusion de cette information. L'information, ça a toujours été important dans les guerres. C'est pas d'aujourd'hui, bien sûr, mais aujourd'hui, le traitement de cette information et le passage au web 1 ou 2, etc., Marc nous expliquera ça tout à l'heure, risque d'organiser de manière fondamentalement différente les futurs conflits, les futurs affrontements. C'est donc au croisement de ces deux évolutions que nous nous retrouvons cet après-midi, et l'interrogation qui a été celle de Thomas Reed et de Mark Hacker, les deux auteurs du livre qu'on va vous présenter cet après-midi, cette interrogation, c'est comment ceci agit-il sur les stratégies des deux côtés, c'est-à-dire les stratégies des puissants et les stratégies de ceux qui ne sont pas censés être les puissants, mais qui peuvent éventuellement avoir des stratégies de contournement de cette puissance militaire classique. Alors ce livre, Marc va peut-être vous l'expliquer, s'occupe des deux types d'acteurs, s'occupe des stratégies de communication ou des stratégies de conflit des États-Unis, d'Israël, de la Grande-Bretagne, de l'autre côté des acteurs uncommon ou non alignés, si je puis dire, que sont Al-Qaïda, le Hezbollah ou les talibans. Et c'est à la rencontre de ces acteurs que s'ouvre notre débat d'aujourd'hui. Alors je vais m'arrêter là, bien entendu. Je dirais simplement pour terminer cette introduction que Thomas Reed a été chercheur en résidence à l'IFRI. Il travaille maintenant à Johns Hopkins University. Mark Ecker est toujours chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Et simplement, je tiens à dire que si ces deux auteurs se sont rencontrés, c'est grâce à un programme international, TAPIR Fellowship, qui réunit les plus grands instituts les plus prestigieux parmi les plus grands instituts du monde occidental, la Rand Corporation, Chatham House, la Stiftung Wissenschaft und Politik en Allemagne, l'IFRI à Paris, et qui nous permet de faire circuler des fellows entre nos instituts. Donc, ils se rencontrent, ils font des recherches, et ça donne quelquefois de brillants livres. Voilà, Marc, j'ai été trop long, et je vous donne la parole pour développer intelligemment tous ces concepts. You have the floor.
Merci Dominique. Je remercie aussi Jean-François Bureau, l'OTAN et puis Isabelle Fernandez qui a été la grande ordonnatrice de cette conférence. Et je remercie aussi Dominique David qui a fait le déplacement de Paris pour présider la séance. Je sais que c'est difficile pour lui de faire ça pour un jeune chercheur, mais bon, j'apprécie. Et bien sûr, il m'a demandé d'être très concis. Il m'a répété plusieurs fois de ne pas dépasser 20 à 30 minutes maximum. Donc c'est ce que je vais faire, parce que je suis consciencieux et que j'obéis à mes chefs. Et bien sûr, en 20 ou 30 minutes, je ne vais pas pouvoir résumer ce livre intégralement et je vais me contenter de développer quelques grandes idées qui ensuite serviront de base à notre débat, qui j'espère sera fructueux. Là, ça dépendra de vous et de vos questions. Donc en fait, pour ce livre, on est parti d'un constat, un constat qui est le changement, une double évolution en fait. Une évolution d'une part de l'environnement médiatique, une évolution d'autre part des conflits. Je vais commencer brièvement par l'évolution de l'environnement médiatique. Pensez à la guerre du Golfe de 1991, c'était à l'époque la grande époque de CNN. On parlait d'ailleurs d'effet CNN, et dans les années 90, les télévisions satellitaires émettant en direct et dans le monde entier ont continué à se répandre, et notamment à se répandre dans le monde arabe avec Al Jazeera, Al Arabiya et d'autres chaînes qui ont été créées. Le véritable bouleversement est venu plus tard avec la création d'Internet et ensuite, dans les années 2002, 2003 et puis plus proche de nous encore, du Web 2.0. Le Web 2.0, c'est une expression qui est due à Tim O'Reilly, qui est un entrepreneur d'origine irlandaise et qui désigne en fait la nouvelle génération du Web qui est plus collaborative, plus interactive et en somme plus sociale. Et les sites les plus connus du Web 2.0, vous les connaissez probablement, c'est Wikipédia, Twitter, Facebook, YouTube, Dailymotion, etc. En somme, donc, les médias sont devenus plus sociaux, plus proches des citoyens. Les journalistes n'ont plus le monopole de la production d'informations. Chaque citoyen peut ouvrir son blog, chaque militaire peut ouvrir son blog et ne se prive pas de le faire avec les 1000 blogs. Les insurgés aussi communiquent sur Internet. Bref, tout le monde s'y met et la production d'informations s'est incroyablement diversifiée. En parallèle, les guerres sont elles aussi devenues plus sociales. On est passé en quelques années du paradigme de la guerre classique avec des affrontements militaires sur un champ de bataille donné. Pensez encore une fois à la guerre du Golfe de 1991 où on a eu une des dernières grandes batailles de chars de l'histoire récente. On est passé donc de ce paradigme de la guerre classique à ce que le général britannique Rupert Smith appelle la guerre au milieu des populations. En somme, l'objectif n'est plus de détruire physiquement l'adversaire et les centres de gravité physiques de l'adversaire, mais d'apparaître comme légitime aux yeux de la population locale et de faire en sorte que le projet politique qui est développé soit accepté par cette population. Et en somme, la question qu'on pose dans le livre, c'est que se passe-t-il quand ces deux tendances se rencontrent, quand les médias sociaux rencontrent des guerres plus sociales. On peut voir cette présentation rapide à travers un autre prisme qui est celui de la révolution. On a eu d'un côté une révolution de l'information, des technologies de l'information et de la communication, et d'autre part un retour de la guerre révolutionnaire, pour reprendre l'expression de Mao. Et ce terme révolution, je pense, est intéressant parce qu'il désigne une période où les hiérarchies sont mises à mal, voire totalement inversées. Et il se trouve que dans les conflits actuels, on voit qu'effectivement les hiérarchies sont quelque peu mises à mal. On a d'un côté des armées modernes, sophistiquées, qui disposent de beaucoup d'argent, qui ont la maîtrise notamment de l'espace aérien, qui sont nombreuses et qui ont le plus grand mal à battre des adversaires qui sont des insurgés, des guérilleros ou des djihadistes, qui sont souvent beaucoup moins bien équipés, qui ne disposent pas de moyens aériens, qui sont même dépassées en nombre, bon, qui en somme, a priori, apparaissent beaucoup plus faibles matériellement que leurs adversaires. Pour le fort, le fort entre guillemets, hein, puisqu'il n'est pas si fort que ça, comme je viens de le dire, il y a un défi de taille qui consiste d'abord à comprendre la nature des conflits et à comprendre qu'il n'est pas si fort que ça. Pour le faible, c'est beaucoup plus intuitif, il a tendance à le comprendre parce qu'il en va de sa survie. Et en somme, la logique stratégique du faible repose sur trois piliers. Il doit d'abord comprendre sa faiblesse pour éviter tout choc frontal qui lui serait fatal. Il doit ensuite compenser sa faiblesse matérielle par sa force morale, qui est souvent liée à une cause très élevée et qui fait que le faible mène une guerre totale alors que le fort mène une guerre limitée. Et il doit enfin innover tactiquement pour pouvoir porter sporadiquement des coups à ses adversaires. Et ce qui est intéressant, c'est que l'innovation se fait aussi dans le domaine de la communication. Et il y a cette idée, effectivement, qui est assez répandue et qui consiste à dire que le faible, les belligérants non étatiques, seraient mieux adaptés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication que les armées modernes. Et ce serait lié à leur structure, puisqu'ils ont souvent une structure très plate, très horizontale, ils sont fluides, ils fonctionnent de manière souple, alors que les armées, elles, fonctionnent de manière beaucoup plus hiérarchique, avec une hiérarchie très pyramidale, et mettent plus de temps à réagir, sont moins souples, moins fluides. Ce qu'on montre en fait dans ce livre, c'est qu'effectivement, les belligérants non étatiques se sont dans un premier temps très bien adaptés aux nouvelles technologies de l'information, qui correspondaient effectivement à leur structure. Hein. Prenez Wikipédia, c'est quelque chose sans chef, de très horizontal, très souple, très fluide, tout le monde peut participer, il y a des évaluations faites par les pairs, mais il n'y a pas un patron qui gère tout ça. Ça correspond plus ou moins à la structure d'un groupe décentralisé comme Al-Qaïda. Donc les belligérants non étatiques se sont effectivement dans un premier temps très bien adaptés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce qu'on montre dans le livre, c'est que les armées s'y sont peu à peu mises également, et très souvent c'est venu par le bas. Donc il y a eu vraiment un phénomène d'apprentissage bottom-up plus que top-down. Et on montre aussi, et ça c'est une nouveauté, que ces nouvelles technologies de l'information et de la communication ont un véritable coût politique pour les belligérants non étatiques, et en particulier pour la mouvance Al-Qaïda, et j'y reviendrai à la fin de ma présentation. Donc en somme, les médias maintenant sont plus sociaux, plus collaboratifs, plus interactifs. C'est ce qu'on appelle le Web 2.0, un fonctionnement plateforme, et effectivement, les belligérants non étatiques se servent d'Internet comme d'une plateforme. Je vais résumer en quelques phrases le chapitre historique du livre, parce qu'il me semble intéressant pour effectivement montrer comment ce changement en plateforme a révolutionné la manière dont les guérilleros, les djihadistes appréhendent les télécommunications. Au XIXe siècle et jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les belligérants non étatiques utilisaient les télécommunications comme une cible. Pensez par exemple à Laurence d'Arabie, qui raconte dans les Sept Piliers de la Sagesse qu'avec ses guerriers arabes, ils utilisaient des dromadaires pour arracher les câbles télégraphiques et empêcher les armées ottomanes de communiquer entre elles. Et on a eu au XIXe siècle et au début du XXe siècle tout un tas d'illustrations de ce type. Pendant la guerre de 1870 entre la France et l'Allemagne, des Français ont aussi coupé des câbles télégraphiques. Pendant la guerre aux Philippines, il y a eu la même chose dont les Américains donc, ont été victimes. Et puis, il y a eu une autre étape qui est venue après avec l'invention de la télécommunication sans fil, radio, télévision, qui a été le fait que les belligérants non étatiques se sont mis à utiliser les télécommunications non plus comme une cible, mais comme une arme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que ces acteurs se sont rendus compte que l'impact psychologique et politique d'une action militaire pouvait être démultiplié par une bonne communication. Pensez par exemple à l'offensive du Tet pendant la guerre du Vietnam, qui, dans le fond, a coûté très cher humainement au Viet Cong. Militairement, stricto sensu, ça n'a pas franchement été une victoire, mais d'un point de vue politique et psychologique, ça a eu un impact démesuré, parce que les images qui ont été diffusées aux États-Unis de combats de rue devant l'ambassade américaine à Saïgon sont totalement venues contredire le discours officiel américain du « on maîtrise tout ». Pensez également à la guerre, à l'intervention américaine en Somalie en 1993, où là, les images diffusées entre autres sur CNN des corps de soldats américains lynchés par la foule et traînés dans les rues de Mogadiscio ont eu également un impact psychologique extrêmement important. Et cet impact a largement entraîné, poussé les Américains à effectivement interrompre prématurément cette opération. Et donc, au XXIe siècle, nouveau changement avec une utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication comme une plateforme, c'est-à-dire que Internet, pour faire simple, n'est pas juste un moyen de communication comme un autre, ce n'est pas juste un moyen de propagande, ça permet aussi d'échanger des conseils techniques et tactiques, ça permet de trouver des financements, ça permet de recruter. Donc ça, c'est un changement majeur, c'est en fait devenu une vraie plateforme opératoire, un vrai système d'opération. Donc ça, ça correspond plus ou moins à ce qu'on a appelé dans le livre World 2.0, la guerre 2.0. Je vais revenir plus en détail sur ce modèle, mais pour bien que vous puissiez le comprendre, il faut que je vous parle un peu de la guerre 1.0. En fait, la guerre 1.0, c'est le modèle de la guerre classique, traditionnelle, qui a culminé au moment où l'armée américaine a renversé le gouvernement de Saddam Hussein en Irak. Et c'est un modèle qui est basé sur des actions extrêmement rapides, sur un usage massif de la force, pour en finir le plus rapidement possible avec la guerre en éliminant les centres de gravité physique de l'adversaire. D'un point de vue de communication stricto sensu, c'est un modèle qui est caractérisé en fait par le rôle très secondaire de la communication externe. En fait, pour les combattants, il y a une division du travail très nette entre combattants et communicants, et pour les combattants, la communication n'est pas très importante. Et dans le fond, pour communiquer, ils embauchent des officiers de presse et ils ne veulent pas avoir à entendre parler de la communication externe. Et en fait, toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont plutôt tournées vers la communication interne. Donc il s'agit en fait de huiler au maximum le processus de command and control, de faire en sorte que la connaissance du champ de bataille soit aussi parfaite que possible. Pensez par exemple au Blue Force Tracker. Il s'agit de faire en sorte que les unités communiquent extrêmement bien entre elles. Bref, toutes les nouvelles technologies de la communication et de l'information, en tout cas une bonne partie d'entre elles, sont tournées vers la communication interne. Avec la guerre 2.0, cela change, notamment parce que ces guerres, donc en fait les guerres, les guérillas que l'on peut voir actuellement en Afghanistan ou en Irak, ces guerres en fait sont beaucoup plus politiques, beaucoup plus sociales, et la division du travail entre communicants et combattants tend à s'estomper. On parle alors de population-centric warfare, ce qui change du network-centric warfare de la guerre 1.0. Et en fait, on se rend compte que le but est vraiment d'apparaître comme légitime aux yeux de la population locale et de faire en sorte que la population locale accepte d'endosser le projet politique qui leur est proposé. Dans ce type de conflit, la victoire est difficile, en tout cas impossible à acquérir rapidement, comme dans la guerre 1.0, hein, où ça peut être fait en l'espace de quelques jours ou quelques semaines. Là, c'est un travail de reconstruction très lent, très laborieux, donc ça prend du temps. Et la communication externe devient beaucoup plus importante dans ce type de conflit, parce qu'elle permet en fait indirectement de toucher la population. En somme, la guerre 2.0, c'est la guerre asymétrique à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, à l'heure du web 2.0. J'ai prononcé le terme guerre asymétrique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'asymétrie qui est généralement évoquée pour l'asymétrie matérielle dans la communication. Alors dans le livre, on liste toute une série d'asymétries dans le domaine de la communication. Je ne vais pas vous les répéter toutes. Je vais sans doute me limiter à quatre d'entre elles. Par exemple, pour prendre la première d'entre elles, le fait de montrer des actes de violence et de destruction bénéficie aux insurgés, mais porte atteinte aux forces en charge de la contre-insurrection. Si vous êtes un groupe insurgé lié aux talibans ou à Al-Qaïda en Afghanistan et que vous détruisez une école, un hôpital ou que vous assassinez un haut responsable politique, vous n'êtes pas sûr, mais vous avez de grandes chances de faire les breaking news de CNN. Alors que si vous faites partie des armées et que vous construisez très lentement le pays, que vous essayez d'apparaître comme légitime aux yeux de la population, ce qui prend du temps par des rencontres avec les tribus, etc., ben ça passe très, très peu en fait à la télévision, c'est pas quelque chose de très médiatique. Donc là, il y a une première asymétrie qui fait que détruire en fait est beaucoup plus télégénique que la construction qui est lente et laborieuse. Il y a une deuxième asymétrie qui est qu'en termes de communication, l'insurgé a souvent l'initiative alors que les forces en charge de la contre-insurrection sont amenées à réagir. Et ça pose un vrai problème aux armées modernes. parce que ce sont des grosses structures, si on pense en termes de sociologie des organisations, ce sont des structures effectivement très lourdes, hein, des bureaucraties, et donc elles ne sont pas forcément adaptées pour réagir à la minute. Parfois la réaction peut prendre plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, voire dans des cas extrêmes, plusieurs jours. Et ça, effectivement, c'est un vrai défi. Je vous donne un exemple. Pendant la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, quand la corvette Anit a été touchée au large de Beyrouth, en l'espace de quelques minutes, moins d'une demi-heure, le Hezbollah avait diffusé une vidéo montrant la corvette, expliquant qu'Israël était sur le point d'être vaincu. Et les Israéliens, eux, ont quant à eux mis plus d'une heure et demie à comprendre ce qui leur était arrivé, et ensuite plusieurs heures pour réagir et pour diffuser un message à la télévision. Et là, on voit qu'à l'heure de Twitter ou de CNN, il faut réagir très très rapidement, et quand on laisse plusieurs heures s'écouler, effectivement, on a de grandes chances de perdre la bataille de la communication. Une troisième asymétrie est liée à la démocratisation des technologies de l'information et de la communication, ce qui en fait signifie que le prix des technologies ne cesse de baisser. Maintenant, tout le monde peut avoir un téléphone portable qui filme et diffuser sur Internet très très facilement des vidéos. Pour les insurgés, c'est un gros avantage, parce qu'avant, ils n'avaient pas les moyens de se payer tous les outils qui permettaient d'arriver à une diffusion globale. Pour les armées, ce n'est pas un gros avantage, parce que dans le fond, ils ont des sous, et que la communication restera, en termes de budget, très faible par rapport au budget total d'une opération. Donc la démocratisation des technologies de communication, le fait que, effectivement, tous les outils liés de près ou de loin à l'informatique et à Internet voient leur prix baisser de manière très régulière, ça favorise plutôt les acteurs qui, a priori, n'ont pas beaucoup d'argent. Enfin, d'une manière plus générale, la dernière asymétrie que je vais identifier ici est liée au risque. Pour les insurgés, en fait, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, Internet, le Web 2.0, font baisser le risque, alors que pour les armées, le risque tend à augmenter. Je vous donne un exemple. Dans les années 90, quand des djihadistes voulaient diffuser des vidéos radicales en Europe, eh bien, ils devaient souvent aller chercher les cassettes vidéo en question au Maghreb. Et que si vous lisez, par exemple, les mémoires d'un djihadiste qui s'appelle Omar Nassiri, il décrit plusieurs voyages qu'il a fait au Maroc pour aller récupérer des cassettes vidéo de ce type. Et pour lui, c'était extrêmement dangereux. Il raconte qu'à plusieurs occasions, il a dû détruire les bandes avant même de pouvoir les ramener en Europe. Donc il a échoué dans sa mission, parce que se faire prendre par la police marocaine avec de telles bandes à l'époque, ça pouvait vous valoir de très très lourdes peines de prison. Aujourd'hui, en quelques clics, on diffuse des vidéos, et pour les insurgés, il n'y a quasiment plus aucun risque. Donc là, il y a vraiment effectivement ce que certains auteurs appellent un sanctuaire virtuel, et qui fait que les insurgés sont plus ou moins protégés sur Internet. Pour les armées, le risque, lui, augmente. Je pense là notamment à ce que le général des Marines Krulak appelait l'effet caporal stratégique. Pour faire simple, avec les nouvelles technologies, si un soldat, même au plus bas niveau de l'armée, commet un acte injustifiable, torture ou une exécution sommaire par exemple, cet acte risque d'être diffusé très rapidement. Pensez par exemple à Abu Ghraib, ces images, en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, ont fait le tour d'Internet et ont eu peut-être un effet stratégique, d'où l'expression « caporal stratégique ». Pensez qu'à l'époque où ces images d'Abu Ghraib ont été prises, donc c'était pas, il n'y a pas si longtemps, hein, 2003-2004, eh bien Facebook, YouTube, Twitter, Dailymotion, etc. n'existaient pas encore. Donc imaginez, s'il y avait aujourd'hui des actes de ce type, vous pouvez être à peu près sûr qu'ils seraient diffusés beaucoup plus rapidement encore qu'à l'époque. Maintenant, je vais en venir à ma conclusion, en fait, puisque j'ai quasiment épuisé les 20-25 minutes qui m'étaient accordées. J'ai beaucoup parlé pendant ces quelques minutes j'ai utilisé des termes génériques comme belligérant non étatique, guerriero, djihadiste. En fait, il y a une différence qu'on pointe dans le livre et qui semble centrale, qui est souvent oubliée, entre les insurrections d'une part et le terrorisme de l'autre. En fait, ce n'est pas la même chose, et d'un point de vue communicationnel, ce n'est pas la même chose non plus. On s'est rendu compte par les cas d'espèces qui sont étudiés dans World 2.0 que les talibans, le Hezbollah, Al-Qaïda ne communiquent pas de la même manière et qui ne se reposent pas sur les mêmes outils. En fait, il est apparu que les insurrections qui sont vraiment implantées localement se reposent beaucoup plus sur les moyens de communication traditionnels. Ils utilisent par exemple des posters. Si vous allez dans le sud de Beyrouth ou à Baalbek, vous verrez des posters de Nasrallah un peu partout, des posters du Hezbollah. Vous ne verrez pas de posters d'Al-Qaïda ou ce genre de choses. Vous verrez même des t-shirts du Hezbollah, vous verrez des casquettes du Hezbollah, encore une fois, les casquettes d'Al-Qaïda ou les t-shirts d'Al-Qaïda, ça n'existe pas. Et des groupes comme le Hezbollah se reposent beaucoup sur la radio également, les talibans aussi. Ils se reposent sur l'échange tout simplement de communication orale, hein, le bouche à oreille, c'est également un élément de communication traditionnelle très important. Ils ont une télévision aussi, Al-Manar, dont ils se servent plus pour communiquer avec l'extérieur. Et quand ils utilisent Internet, c'est plus pour toucher effectivement les populations externes au Liban. Mais pour ce qui est de leur implantation locale, là, il ne faut pas oublier et pas négliger les moyens de communication traditionnels. Quand on prend un groupe comme Al-Qaïda, lui s'est beaucoup reposé sur Internet. Ça a été vraiment un outil de résilience parce qu'Al-Qaïda était très mal en point après la destruction des camps d'entraînement en Afghanistan suite aux attentats du 11 septembre et au début de l'opération Enduring Freedom. Et grâce à Internet, Al-Qaïda, ou à cause d'Internet, Al-Qaïda s'est beaucoup décentralisé, a pu s'implanter dans d'autres zones géographiques et, en somme, a pu survivre, puisque pour l'organisation, c'était vraiment une question de survie. Maintenant, il y a eu un coup politique très fort pour cette organisation, qui est qu'en se reposant trop sur Internet, en se reposant trop sur le virtuel, en fait, on se coupe de sa base populaire potentielle. Et certains ont parlé un peu trop rapidement, je pense, aux alentours de 2005-2006, d'insurrection globale au sujet d'Al-Qaïda. À mon avis, Al-Qaïda est surtout une insurrection globale ratée. Ils ont échoué dans leur objectif qui était énoncé clairement au début des années 90 et qui était de soulever l'Oumma, contre, donc la communauté des musulmans, contre les Occidentaux. Et je pense que c'est lié en partie au fait qu'ils se soient reposés quasiment uniquement pour leur communication sur Internet et aux reprises d'images, de vidéos diffusées sur Internet par les médias traditionnels. En somme, Al-Qaïda aujourd'hui est cantonné dans la partie terrorisme et ne pourra sans doute plus jamais se transformer en insurrection globale. La difficulté, c'est que c'est un groupe terroriste transnational qui tout de même se repose sur des insurrections locales et ça pose un vrai défi de taille pour les armées occidentales parce que c'est quelque chose d'inédit. Et pour finir, ce seront vraiment mes derniers mots. J'aimerais encore insister sur le fait que dans World 2.0, on a essayé de ne pas céder à l'aveuglement des nouvelles technologies. Et donc, on a montré que les nouvelles technologies, en particulier tous ces nouveaux phénomènes qu'on voit apparaître, hein, les 1000 blogs, les communautés de pratique, des plateformes comme Company Command ou Platoon Leader, tous ces blogs stratégiques qui se multiplient, l'usage qui peut être fait de Twitter, Facebook, etc. On a essayé de montrer qu'il ne fallait pas le sous-estimer, parce que c'est important. On l'a vu récemment en Iran, par exemple. Ça a un poids politique qui est quand même non négligeable. Mais en même temps, il ne faut pas non plus surestimer le phénomène. Et les moyens de communication traditionnels restent très importants. En somme, et là c'est vraiment mon dernier mot, pour les communicants des armées, le travail est devenu beaucoup plus complexe et ardu, puisqu'ils doivent maîtriser un spectre d'outils de communication très large, qui va de la communication traditionnelle, échanger avec la population locale de manière directe, utiliser la radio, etc., à des communications beaucoup plus modernes, comme YouTube, Facebook, Twitter, etc.
Merci Marc pour cette introduction. Je suis désolé de vous avoir terrorisé jusqu'à Bruxelles pour vous obliger à rester dans des limites qui permettent la discussion. Sur les moyens de communication traditionnels, je lisais dans Le Monde, excusez-moi, c'est pas un journal de ce pays, mais dans Le Monde de samedi dimanche, le relevé des déclarations de Saddam Hussein au FBI, qui ne m'avait pas été précédemment communiqué, et où il expliquait que naturellement, depuis des années, il ne communiquait avec ses adjoints que par le biais des messagers parce qu'il se doutait bien que l'ensemble des moyens technologiques étaient dûment écoutés. C'est très intéressant ce passage. Mesdames, messieurs, vous avez the floor, si je puis dire, comme on dit en français. Je vais quand même indûment profiter du fait que j'ai le micro et que personne ne puisse me l'ôter provisoirement pour vous poser deux questions qui me sont suggérées par votre présentation. J'étais très intéressant parce que vous expliquiez quant à la différence des temps de réaction entre un petit groupe, si je puis dire, mobile et un État, dans cet exemple, l'État d'Israël. Est-ce que ça veut dire, pour être complètement caricatural, que même pour les États et les grandes armées, il va falloir qu'on confie la tâche de la réaction à des petits groupes, à ce qu'on appellerait en France des petits groupes de voltigeurs, c'est-à-dire est-ce qu'il va falloir que les réactions soient désormais au nom des armées françaises, etc., de l'état-major français, soit affectée cette capacité de réaction à de petits groupes extrêmement réactifs, extrêmement mobiles et donc extrêmement peu contrôlés, ce que les États n'aiment pas. Naturellement. Deuxième question, qu'est-ce qui est pertinent de ce que vous venez de dire, plus exactement dans l'autre sens, est-ce que le concept de cyberwar j'en conviens, extrêmement vague, enfin vous allez vraisemblablement me l'expliquer, est-ce que le concept de cyberwar est pertinent et utile dans l'ensemble de ce que, par rapport à l'ensemble de ce que vous venez de dire, autrement dit, l'idée que cet espace que vous décrivez est lui-même un champ d'affrontement, avec des moyens spécifiques d'affrontement. Vous pourrez peut-être répondre, mais ne me répondez pas tout de suite. Je préfère, si vous le voulez bien, passer à plusieurs questions auxquelles on va répondre en botte, si je puis dire. Monsieur, je vous en prie.
Bonjour, je suis Lucas Pinache, je suis comité des régions. Je salue cette présentation, je trouvais très intéressant. Et, bon, c'est la rentrée de la France à l'OTAN, peut-être. Question très simple, est-ce que dans votre livre vous avez considéré aussi comme il a changé la profession des journalistes, des rédacteurs de guerre, disons, en vertu de cette change de paradigme?
Monsieur, je vous en prie.
Robert Soltik, la Commission européenne. En prenant votre analyse, qui je trouve tout à fait intéressant, comment vous analysez la dernière guerre entre la Russie et la Géorgie? Parce que je trouve que c'est un conflit tout à fait classique, je dirais ancien, par rapport à l'utilisation de médias. Et dans ces cas-là, je me demande, est-ce que c'est pas vraiment le conflit qui sont différents qui dicte, ou plutôt qui cause que les stratégies de communication de belligérants sont différentes. Parce que bien sûr, les conflits type de voisinage, on peut dire, sont plus ou moins, en moins à certains œufs, très classiques. Utilisation de forces massives, la Russie s'est à peu près fichée d'utiliser la communication externe, alors que le président Saakashvili était presque tout le temps à CNN. Et ça n'a pas changé les rapports de force, quoi qu'il se soit. Alors que les conflits type insurrectionnels, comme en Iran, il y a une utilisation massive de Twitter, Facebook, tout ça, mais à la fin, la réaction, elle est même. Ça veut dire personne ne bouge. Il n'y a aucun impact médiatique à la processus politique et militaire dans les conflits. Je voudrais avoir aussi votre analyse et la question supplémentaire, parce que bon, on est dans l'amphithéâtre où l'OTAN a gagné la guerre de Kosovo avec les fameuses conférences de presse de Jimmy Chia. Est-ce que vous croyez que c'est encore jouable aujourd'hui?
Peut-être prendre pour ce premier round une dernière question. Madame Nice, non, ne courez pas, je vous en prie.
Petite remarque, Marc, tu avais dit Internet a été inventé. Je pense qu'il vaut mieux dire que ça a été en quelque sorte légué après la guerre froide, quand on regarde les travaux de Manuel Castel, par exemple, comme remarque. Et après, quand on voit la guerre asymétrique, les désavantages, mais aussi les avantages de cette nouvelle structure, par exemple, je pense pour les services secrets, il y a beaucoup de travail, mais en même temps beaucoup d'opportunités. Si on pousse la logique encore plus loin, est-ce qu'il ne faut pas que l'Occident ou l'OTAN, par exemple, s'invente aussi une sorte de tribu pour faire face à des insurgés et pour rendre cette guerre de nouveau symétrique?
Hypothèse intéressante. Bon, Marc, je crois que pour le premier round, c'est assez. Je vous en prie.
C'est beaucoup. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre. Question de Dominique sur les réactions confiées à des petits groupes. Alors moi, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'il ne faut pas totalement dénaturer les organisations telles qu'elles existent. Il faut quand même s'inscrire dans la culture politique, la culture organisationnelle de chaque organisation au risque d'arriver à un grand n'importe quoi. Donc à mon avis, il ne faut pas du jour au lendemain dire on démantèle tous les départements de communication des armées et puis on constitue des petites communautés avec des nouveaux acteurs qui ne connaissent pas forcément bien ces organisations mais qui pourront réagir plus rapidement. Ils risquent effectivement de réagir plus rapidement mais peut-être beaucoup plus mal aussi. Donc il faut trouver un juste équilibre. Mais à mon avis, ce qui est envisageable, c'est des réformes des départements de communication. Et on y pense un peu partout d'ailleurs, même en France. Je pense qu'effectivement, il faudrait notamment instiller plus de confiance aux jeunes qui sont dans les départements de communication, faire en sorte que tous leurs messages ne soient pas systématiquement vérifiés a priori par les chefs, parce que quand vous remontez tous les échelons hiérarchiques, ça prend du temps. Et en somme, peut-être miser sur quelque chose qui pourrait être appelé, je ne sais pas, peut-être une forme d'auftragstaktik en matière de communication. Faire un peu plus confiance aux jeunes, leur confier des missions et leur dire, voilà, notre objectif en termes de communication, c'est ça. Et vous allez effectivement vous inscrire dans cet objectif-là, mais on ne vérifie pas chacun de vos messages. Dans le fond, il vaut mieux faire sortir un message rapidement, même s'il n'est pas tout à fait poli et parfait, que le faire sortir 5 heures plus tard, quand il sera trop tard, et que la bataille de la communication sera déjà perdue. Je vois, Dominique, que vous voulez déjà réagir là-dessus, mais je vais prendre encore les questions dans l'ordre. Donc, cyber war, c'est en fait un concept totalement différent, et on n'a précisément pas voulu faire un livre sur la cyber war, et... J'espère que le titre World 2.0 ne trompe pas trop les lecteurs. Ce n'est vraiment pas l'objectif. Nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que les nouveaux médias ont un impact sur les conflits actuels, mais c'est vraiment une étude sociale de cet impact, si vous voulez. Il ne s'agit pas du tout de voir comment les réseaux informatiques pourraient être piratés ou utilisés. Là, ça nous amène à parler de la Russie et de la Géorgie, par exemple. Et honnêtement, on n'aurait pas du tout les compétences pour le faire. Il faudrait quasiment être ingénieur informaticien pour pouvoir analyser précisément les mécanismes de la cyber war. Il y a un concept qui est plus proche, qui est celui de net war, qui avait été proposé au début des années 90 par Arkila et Ronfeld, et qui est intéressant, je ne vais pas vous l'expliquer en détail, mais enfin, ils avaient déjà eu le pressentiment, et ils avaient précisément créé ce concept par opposition à celui de cyber war. Ils avaient eu le pressentiment que les nouveaux médias étaient, dans le fond, un phénomène social. Et donc, ils avaient voulu étudier l'impact social de ces nouveaux médias, mais en fait, ça les amenait à glisser très largement de la guerre elle-même. Donc, il y a le mot « war » dans « net war », mais ils étaient passés à des phénomènes d'études de délinquance ou des phénomènes de gangs s'organisant autour des réseaux Internet. Donc la cyber war, c'est vraiment différent. Les journalistes, les correspondants de guerre, est-ce que leur travail a changé? Je ne dirais pas fondamentalement, ils ont plus de concurrence, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'appuient eux-mêmes sur ce qui peut remonter du terrain avec les nouveaux médias. Et dans le fond, dans certaines situations, ils deviennent un peu dépendants des nouveaux médias. Il y a une chose qui, à mon avis, mais c'est presque un détail, mais qui change leur travail et dont je n'ai pas du tout parlé jusqu'à présent, qui est le téléphone portable. Et je pense que le téléphone portable, il faudra en reparler plus longuement, parce que c'est quelque chose qui vraiment, à mon avis, change beaucoup de choses, notamment parce que bon, les reporters ont maintenant tous leur téléphone portable, et les militaires aussi, et les insurgés aussi. Et les numéros de téléphone circulent très rapidement, et on se rend compte que les journalistes ne se privent pas d'appeler à la fois les insurgés et les militaires, et que parfois on arrive à des situations de fuite extrêmement rapides. Là encore, la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, l'état-major israélien était tellement surpris par l'ampleur des fuites qu'ils ont ordonné une enquête, et ils se sont aperçus de tête, mais le chiffre est dans le livre, qu'il y avait eu plus de, je crois, 400 officiers qui avaient parlé, en l'espace donc d'une guerre de 33 jours, à des journalistes sur leur téléphone portable, bien sûr sans aucune autorisation. Donc pour les journalistes, ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations, mais ça les gêne presque. Pour cette étude, on est allé faire un peu de terrain en Israël, et il y a des journalistes israéliens qui nous racontaient qu'ils étaient vraiment gênés des informations qu'ils recevaient en direct d'officiers supérieurs israéliens, certains réglant des comptes, hein, expliquant que tel colonel était nul et qu'à cause de lui, l'armée avait perdu 3 hommes. Et les journalistes expliquaient qu'ils ne savaient pas, d'un point de vue éthique, comment utiliser ces informations. Ils ne voulaient pas reproduire ça tel quel dans les grands médias du pays. Juste dernier point sur les téléphones portables, même si ça nous éloigne de la question. Il y a un phénomène qui, je pense, est assez peu pris en compte actuellement, mais qui est extrêmement important, qui est le taux de croissance des téléphones portables dans les pays du Sud. En fait, c'est dans les pays du Sud, essentiellement, que la croissance mondiale se passe maintenant. Je vous donne un chiffre. Au Pakistan, en 2004, je crois que le chiffre, c'est 7%, me semble-t-il. Donc 7% des Pakistanais avaient un téléphone portable. Aujourd'hui, on a passé la barre des 50% allègrement. Donc c'est des taux de croissance vraiment extrêmement rapides et il est très difficile de savoir quel va être l'impact de ces développements dans des pays qui probablement seront les théâtres d'opération de demain. Dans le livre, on cite les chiffres de 2007. Au dernier trimestre 2007, les 4 pays qui avaient le plus fort taux de croissance de téléphones portables, c'était l'Ouzbékistan, l'Iran, comme par hasard l'Iran, on a vu les effets du téléphone portable il y a quelques semaines, l'Afghanistan et la Sierra Leone. Donc on voit vraiment qu'il y a un phénomène d'explosion du téléphone portable avec des phénomènes sociaux, économiques ou autres qu'on n'avait pas du tout prévus. Par exemple, dans les pays du Sud, les entreprises de téléphonie mobile sont presque en train de supplanter les banques parce que les téléphones portables sont utilisés comme de véritables cartes de crédit sans avoir besoin d'ouvrir un compte en banque. Donc ça, c'est un exemple de transformation dans le milieu économique et financier. Pour les impacts dans le domaine de la guerre, on ne sait pas trop vers quoi on va. Pour la question sur la Russie et la Géorgie, alors ça, pour le coup, effectivement, c'est un cas d'espèce qu'on n'a pas du tout étudié dans le livre.
Et oui, plus largement, est-ce qu'il y a des conflits classiques qui restent gérés classiquement et des conflits modernes qui sont gérés modernement, si je puis dire?
C'est vrai que le livre se focalise sur des conflits asymétriques. En même temps, tout comme on n'a pas voulu être aveuglé par la nouveauté des technologies, on a essayé de ne pas être aveuglé non plus par la nouveauté des conflits. Donc on n'exclut pas du tout la possibilité de conflits classiques à l'avenir. Est-ce qu'ils sont gérés plus traditionnellement? Probablement. Il n'y a sans doute pas ce phénomène d'innovation réciproque, de progression. C'est-à-dire quand les insurgés innovent, les armées sont obligées d'innover à leur tour. Et puis il y a en fait une compétition assez positive en termes d'émulation et d'innovation. Là, si on a 2 acteurs qui fonctionnent de la même manière, il y a plus de chances effectivement qu'ils continuent à utiliser des moyens de communication traditionnels. Enfin, je veux vraiment pas m'attarder là-dessus parce que c'est un cas d'espèce qu'on n'a pas étudié. En revanche, il est vrai que ces guerres classiques sont a priori beaucoup plus propices à la cyber war, pour le coup. Et il semblerait que pendant la guerre Russie-Géorgie, ça a été le cas. Je n'ai pas beaucoup de détails là-dessus, mais j'ai entendu que les avions géorgiens, par exemple, avaient été cloués au sol par une attaque préalable. Donc là, on est effectivement plus dans le domaine de la cyber war que de la guerre 2.0 telle qu'on l'a définie.
Non, mais la question est quand même, est-ce que votre analyse de la guerre 2.0 s'applique exclusivement à la guerre menée à l'intérieur des populations, comme vous l'avez dit, ou est-ce que c'est une application qui est conjoncturelle? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que dans l'avenir, ça bouleverse l'ensemble des conflits? Ou est-ce que c'est, j'allais dire, dans une petite boîte qui est déjà très importante, puisque les guerres insurrectionnelles sont beaucoup plus nombreuses statistiquement que les autres? Mais est-ce que ça veut dire que ça pourra déborder un jour ou pas? Excusez-moi, c'est ma question à moi, ça.
Je pense que les outils dont on parle, ou les technologies dont on parle, sont en train de devenir tellement courantes qu'on ne pourra plus s'en passer, effectivement. YouTube ou Facebook ou autre, ce sera courant, tout le monde utilisera ça dans les prochains temps, et ce sera quand même utilisé. Mais je pense que ça restera marginal dans les conflits classiques, parce qu'on est dans une configuration où la communication externe n'est pas si importante. Ce qui est important dans un conflit classique, c'est de détruire les centres de gravité physique de l'adversaire. Et c'est ce qui a été fait quand même assez rapidement lors de la guerre Russie-Géorgie. Donc, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas accorder une importance démesurée à ces nouveaux outils, mais ils existent et ils seront utilisés. l'armée israélienne, pour prendre encore ce cas, même si on reste dans le cadre de la guerre au milieu des populations, s'est mis à utiliser YouTube, par exemple. Lors de la dernière guerre de janvier 2009, dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a filmé quasiment toutes ses opérations, a interdit l'accès aux journalistes et a diffusé les vidéos sur YouTube. Et ces vidéos ont eu un succès énorme, elles ont été vues sur YouTube même des millions de fois, et surtout elles ont été reprises par les médias classiques. Et là, j'aimerais en venir à votre question sur l'Iran et sur le lien entre médias classiques et l'impact politique des nouveaux médias. Je vais en fait décrire un article qui est paru aujourd'hui dans Les Échos, journal français, qui s'appelle « L'effet YouTube contre effet CNN ». Et je pense que les nouveaux médias permettent effectivement d'avoir des images de tous les conflits. Si vous allez sur YouTube, vous avez à peu près des images de tous les conflits, des guerres africaines, de tous les conflits oubliés. Mais ce n'est pas parce que ces images sont disponibles sur YouTube que ces conflits sortent de l'oubli. En fait, pour qu'ils sortent de l'oubli, il faut qu'ils soient repris par les médias traditionnels. Et en un sens, pour le moment, c'est caricatural de dire ça, mais pour le moment, YouTube n'est pas grand-chose sans CNN, du point de vue de l'impact politique. Pour les décideurs, pour les responsables politiques et militaires, les médias qui comptent encore à l'heure actuelle, et je pense pour plusieurs années encore, ça reste effectivement CNN, la BBC, etc. Donc les médias traditionnels. L'OTAN doit-il s'inventer une tribu ? Question difficile. Là encore une fois, mais ce sera peut-être plus anecdotique, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on reprend la guerre Israël-Hamas de début 2009, les Israéliens avaient essayé de se créer une tribu avant la guerre. Donc ils avaient en fait, via le ministère des Affaires étrangères, créé une communauté de blogueurs pour relayer le message. Et donc ils avaient vraiment misé beaucoup sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication et sur les réseaux sociaux. Donc l'armée a ouvert sa chaîne sur YouTube. Il me semble qu'ils ont aussi ouvert, je ne sais pas si c'était institutionnellement ou pas, mais un profil sur Facebook. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que certains communicants de l'armée israélienne ont des profils sur Facebook, notamment le communicant en charge des médias des pays arabes. Et donc, il y a effectivement une tentative de créer des communautés, des tribus. Mais je pense que, bon, pour le moment, ça reste assez marginal. Et bon, je ne suis pas sûr que... effectivement, il fallait peut-être investir là-dessus, oui, mais pas investir uniquement là-dessus, parce que, comme je le disais avant, pour de nombreuses années encore, ce sont les médias traditionnels qui vont dominer.
Merci beaucoup, monsieur, je vous en prie.
Est-ce que vous pensez que la raison que les outils de communication deviennent de plus importants dans les conflits, c'est surtout aussi que, généralement, ou historiquement parlant, c'est de plus en plus des guerres d'idéologie. Dans le sens, Al-Qaïda, terrorisme fondamentaliste islamique contre la démocratie à caractère plutôt judéo-chrétien. Donc voilà, oui. Surtout le fait que les guerres sont de plus en plus idéologiques. Géorgie-Russie, ce n'était pas idéologique, c'était surtout territoire.
Merci. Une autre... Je vous en prie.
Oui, c'était très intéressant ce que vous avez décrit, mais dans ce système de communication multicouche, c'est comme ça que je l'appellerais, est-ce que vous avez parlé d'une bataille de la communication qui allait être perdue parce qu'on n'allait pas aller assez vite, est-ce qu'il y a derrière pas aussi une possibilité de gagner une bataille de l'information ?
Si l'information survit. La question, c'est est-ce que l'information survit à l'ère de la communication, un peu. Et moi, je voudrais vous poser une autre petite question, mais qui est en réalité énorme, mais peut-être pourrez-vous exercer votre esprit de synthèse pour répondre vite. Vous avez parlé des réformes, parce qu'on a surtout parlé du côté insurrection, si je puis dire. Il faut parler aussi des gros, si je puis me permettre, des États qui survivent, comme l'information survit peut-être au temps de la communication. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée des réformes qui ont été, enfin, de la logique générale des réformes qui sont en train d'être introduites dans ces grands services de communication au service des acteurs classiques, si je puis dire, des États. Si jamais on peut faire une synthèse là-dessus, si ça part pas trop dans tous les sens. Je vous en prie.
La question reste difficile. guerre idéologique contre démocratie. Sans doute, mais là, on se situe à un niveau très élevé. Les Américains avaient, par exemple, développé le concept de communication stratégique pour, effectivement, essayer de communiquer leur projet démocratique de manière très stratégique, comme le nom l'indique. Et dans le fond, ils sont arrivés à des résultats très mitigés parce que quand on crée un nouveau concept, et ça, on rebondit presque sur la dernière question, très souvent, on crée de nouvelles institutions. Et du coup, on se retrouve avec une myriade d'institutions, avec à chaque fois des attributions différentes et puis des carrières souvent différentes, une concurrence institutionnelle qui n'est pas toujours bénéfique. Et effectivement, la communication stratégique, on est en train un peu de revenir dessus, parce qu'en plus, on se rendait compte que communiquer la démocratie contre communiquer le djihad global pour Al-Qaïda, bon, ça, en fait, ça n'avait pas énormément de sens. La communication que nous, on a essayé d'analyser, c'était aussi et surtout juste la communication de terrain où il s'agit, là encore, effectivement, de présenter un projet politique. Donc on est quand même dans cette dichotomie politique entre le totalitarisme d'un côté et la démocratie de l'autre. Mais c'était quelque chose de beaucoup plus tangible et concret pour les populations locales que des grands concepts communiqués notamment par les plus hautes autorités politiques expliquant que c'était la guerre du bien contre le mal. Ceci étant, il est vrai que quand il y a une dimension politique, effectivement, il faut la communiquer et c'est vrai que la communication prend plus d'importance. Ça, c'est vrai. Peut-être que pour un conflit strictement territorial, la communication peut avoir moins d'importance. Sur la communication multicouche, la possibilité de gagner la bataille de l'information, déjà, je ne suis pas sûr que la bataille de la communication soit nécessairement perdue. Il y a effectivement une asymétrie, mais qui ne signifie pas nécessairement une défaite inéluctable. Il y a des moyens de s'améliorer rapidement. Simplement, il ne faut pas non plus partir perdant d'avance. Et justement, j'espère que ça n'a pas été interprété comme ça, mon propos liminaire, parce que dans le livre, on explique notamment que vouloir sans cesse communiquer comme Al-Qaïda, prendre Al-Qaïda comme modèle et se dire « Ah, ils communiquent très bien sur Internet, il faut qu'on voit comment ils font ça », et essayer de faire la même chose. Je pense que c'est une erreur et il faut essayer de communiquer avec nos forces et nos faiblesses, entre guillemets, donc avec les institutions qu'on a. Sur la différence entre bataille de la communication et bataille de l'information, j'avouerai que pour moi, la distinction n'est pas aussi limpide qu'elle a l'air de l'être pour Dominique. En tout cas, il me reste à peu près 3 minutes, donc je vais avoir du mal à faire une réponse synthétique là-dessus.
C'est inquiétant, c'est peut-être un effet de génération.
C'est peut-être.
A new Fred.
Il faudra que vous me l'expliquiez sur Twitter en 160 caractères. pour ce qui est de la dernière question, sur les réformes, la logique générale, alors il y a une première logique, je pense, qui est assez répandue, qui est la volonté d'éviter justement les structures multiples et qui se tirent dans les pattes. C'est quelque chose qu'on retrouve dans différents pays. Quand vous avez 5, 6, 7, 8 structures qui sont en charge de la communication, avec à chaque fois des sigles très compliqués, avec à chaque fois un chef qui veut avoir un peu plus de poids, etc., vous êtes sûr d'arriver à un résultat médiocre parce que chacun va vouloir communiquer mieux que les autres, mais ça va en fait donner un message très brouillon. Donc il y a eu plusieurs réformes dans différents pays allant dans ce sens-là. Ça a été notamment discuté en France, on n'y est pas arrivé encore, mais il y a des idées pour remettre en cause la distinction traditionnelle entre communication opérationnelle et communication de défense, par exemple. Le problème, c'est que quand on veut faire une réforme, et ben forcément ça nuit à certaines personnes, et donc il y a de fortes résistances. Donc il faut effectivement trouver des moyens de faire passer ces réformes-là. Mais bon, certains pays y sont plus ou moins arrivés. Les Israéliens, encore une fois, c'est un bon exemple. Ils ont revu leur architecture de communication entre la guerre de 2006 et la guerre de 2009. Ils avaient identifié la guerre de 2006 comme un véritable fiasco en matière de communication. Et ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils ont changé effectivement largement leur architecture en nommant un responsable de la communication en lien direct avec le politique. Donc il y a cette tendance effectivement au regroupement. Pour les autres tendance à la réforme. Il y aurait d'autres choses à dire. Il y a parfois des réformes qui ne vont pas nécessairement dans le bon sens. Les Britanniques ont fait une réforme il y a quelques années qui, en fait, s'est révélée catastrophique. Ça partait d'une bonne intention. Ils s'étaient rendu compte que, déjà, il y avait des fortes tensions entre les communicants civils et les communicants militaires, ce qui sans doute est récurrent. Et ils s'étaient rendu compte aussi que parmi les communicants militaires, chaque armée voulait défendre son bout de gras. Donc, surtout quand il y avait des guerres budgétaires qui se dessinaient, à ce moment-là, il fallait pour l'armée de terre montrer les chars, pour l'armée de l'air montrer les beaux avions et pour la marine montrer les bateaux. Et il s'agissait de faire en sorte de communiquer le mieux possible pour avoir plus de crédit. Donc les Britanniques ont essayé de changer ça et leur solution a été de remplacer au sein du département de communication les généraux de chaque armée en les dégradant et en mettant des colonels à la place. Bon, il se trouve que la réforme n'a pas bien marché et que le résultat s'est avéré complètement contre-productif.
Est-ce qu'on a une minute encore? Parce que monsieur, voilà, je vous en prie, on vous amène un micro, monsieur.
Oui, Jean-Jacques Rateau, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger. Oui, je voudrais poser la question suivante. Vous semblez avoir abordé la communication ou l'information en termes, je dirais, à la loyale. C'est-à-dire que tout le monde présente, je dirais, le mieux possible, bien entendu pour son camp, des informations, mais qui sont objectives, qui ne sont pas contestées. Est-ce que l'avenir, justement, de cette approche, si vous voulez, ce n'est pas au contraire, je dirais, une approche d'intoxication. Je pense, par exemple, nous avons un exemple aujourd'hui, si vous voulez, où on apprend que les sept moines de Tibérine ont été assassinés, semble-t-il, par l'armée, et les insurgés, si on peut dire, algériens, n'ont pas réagi. C'est-à-dire que l'intoxication était tellement forte que les autres ont été comme assommés, si vous voulez, alors que si cette information est exacte, normalement, on aurait pu s'attendre à ce que des insurgés disent « Mais nous, c'est pas nous, on n'a rien à voir dans cette affaire-là. » Donc, voyez-vous, est-ce que on va pas passer maintenant de l'autre côté, je dirais, c'est-à-dire les uns donneront une information la mieux possible, mais les autres iront au niveau de l'intoxication. Je pense à un autre exemple beaucoup plus vieux, c'était au moment de la guerre des six jours, où le Nasser prétendait que ses forces avaient attaqué, voire même coulé, je crois, le Richelieu, ou enfin un super bâtiment français, naturellement les forces d'autre côté se sont employées à montrer que le bateau était tout à fait intact, etc. Donc voilà, est-ce que c'est le rôle de l'intoxication ne risque pas de prendre le dessus sur celui de la communication. Merci.
Bien, merci, monsieur. Bien, on va conclure par là, si vous voulez bien, Marc. Mm-hmm.
En fait, je pense pas. Alors, une des asymétries dont je n'ai pas parlé, asymétrie de communication qui est développée dans le livre, c'est le rapport à la vérité, justement. Les armées sont, en fait, plus tenues à la vérité que les insurgés. Ça fait partie, en fait, de la démocratie, il ne faut pas mentir, et voilà, c'est effectivement, en théorie du moins, comme ça. On n'est pas obligé de dire toute la vérité, mais enfin, il ne faut pas être...
Ce n'est pas qu'il ne faut pas mentir, c'est que sur le long terme, la vérité est plus efficace que le mensonge.
Voilà, et la découverte du mensonge peut avoir des effets stratégiques extrêmement néfastes. Alors que les insurgés n'ont effectivement pas ce problème-là, et Galoula, donc, qui était un officier français pendant la guerre d'Algérie, disait déjà que les insurgés étaient plus jugés par leurs promesses que par leurs actes, et que donc ils pouvaient se permettre, en fait, d'avoir un rapport à la vérité très approximatif. Ceci étant, les exemples que vous donnez, que ce soit Tibérine ou la guerre des six jours, à mon avis, ce type d'intoxication-là va devenir de plus en plus difficile, justement parce que chaque citoyen, maintenant, peut se transformer, peut-être pas en journaliste, mais du moins en témoin. Tout le monde maintenant peut filmer. Je veux dire, l'intox dont vous parliez de Nasser évoquant pendant plusieurs jours une victoire écrasante sur l'armée israélienne, à mon avis, c'est maintenant totalement impossible. D'autant que l'Égypte est remarquée à l'heure actuelle par l'expansion régulière de sa blogosphère et du nombre d'internautes dans le pays. Donc je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, va devenir de moins en moins probable et de moins en moins possible.
Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je crois que nous allons terminer là pour démontrer au moins que les Français ne sont pas toujours en retard. Je voudrais vous remercier beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup aux organisateurs de cette conférence. Je crois que vous avez compris que nous sommes seulement au seuil d'une réflexion qui durera aussi longtemps que les technologies de l'information et de la communication évolueront, c'est-à-dire qu'il y a un long programme de recherche pour Marc. Je voudrais aussi, dernier mot, dire que ce livre se termine par des recommandations pour les appareils, en particulier pour les appareils et les armées et les États modernes. Et donc, je vous invite à aller voir ces recommandations que nous n'avons pas eu le temps, bien entendu, que Marc n'a pas eu le temps de détailler. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame.
C'est nous qui vous remercions. Merci d'être venu et merci pour ces très intéressants débats. Je voulais juste rajouter à propos du livre, donc War 2.0, que malheureusement, pour des raisons que nous n'avons pas pu contrôler, le livre n'est pas disponible aujourd'hui, n'est pas arrivé aujourd'hui à la bibliothèque comme il avait été prévu. Mais dans les jours qui viennent, le libraire nous a promis qu'il serait mis à la disposition de toutes les personnes qui auraient assisté à la conférence à des prix avantageux. Le libraire, il s'agit de Waterstone, je ne voudrais pas en faire la publicité, mais c'est tout de même auprès d'eux que vous pourriez avoir un prix avantageux ultérieurement, donc après cette conférence. Donc encore une fois, toutes nos excuses pour ce contretemps, mais voilà. Et merci encore. Merci.